VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Dans la capitale américaine, il est 12h et 17h à Bangui, en Centrafrique. Le tribunal correctionnel de Bangui a rendu ce matin son verdict dans le procès du ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat, Romaric Vomitiadé. Celui-ci a encore 2 ans de prison ferme. Celui-ci a récupéré donc de 2 ans de prison ferme, 300 000 francs CFA d'amende et 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le viol d'une mineure de 16 ans, Laetitia Lydie Kitia. Lors de la consultation à la base, c'était le 25 janvier dernier à Yaloké, dans l'ouest de la Centrafrique. Félix Yepassi Zemrou a recueilli la réaction de l'un des avocats du ministre, maître Jean-Louis Opalagna.
Je constate que c'est une parodie de procès. La décision ne correspond même pas aux faits. On ne peut pas tirer argument de ce que des habits ont été exhibés à l'audience pour condamner quelqu'un. En plus, un ministre encore en fonction par le tribunal de grande instance a une condamnation ferme. Le juge disqualifie les infractions de pédophilie et d'atteinte à la liberté, à la promotion et au développement de la jeune fille, mais ne dit pas quelle est l'infraction envers laquelle il les requalifie. Il s'arrête seulement à disqualifier et il va dans l'attentat à la pudeur consommée avec violence, alors qu'il n'y a pas eu de consommation.
Maître, selon vous, les chefs d'accusation retenus dans cette affaire ne sont donc pas avérés?
Non, il s'agit d'un complot dont les sources sont diverses. Il y a d'abord le camp duquel il est sorti pour être ministre. Il y a en plus son département ministériel. Il y a enfin un collègue membre du gouvernement qui ne veut plus de lui parce qu'il est tombé sur un dossier compromettant à l'égard d'un ministre conseiller à la présidence.
Maître Jean-Louis Opalagna, l'avocat défenseur du ministre Romaric Vomitiadé. Toujours en Centrafrique, un leader politique, président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, Michel Amin, a été arrêté hier à l'aéroport de Bangui Mpoko, puis remis au parquet pour possession de faux passeports. Selon le ministère de la Sécurité publique, Michel Amin, qui est aussi candidat à la présidentielle de 2015, était en possession de 3 passeports, centrafricains, camerounais et afghans. Mais c'est surtout le fait d'être né à la même date, à 2 endroits différents, qui constitue le délit, soulignent les autorités, soulignant que Michel Amin avait dissous son bureau politique il y a quelques jours pour des malversations financières. En République démocratique du Congo, 4 membres du gouvernement citoyen, du mouvement citoyen congolais, Lucha, ont été arrêtés hier à Goma, dans l'est de la RDC, alors qu'ils manifestaient en faveur de la libération d'autres militants détenus à Kinshasa. D'autres militants se sont rendus aux forces de l'ordre ce matin pour protester contre ces arrestations qu'ils qualifient d'arbitraires. Duvin Kombi est l'un des militants du Lucha à Goma.
Depuis 7 heures, nous étions réunis devant le bureau de la police qui venait à peine d'arrêter nos amis à Dampillet. Ce qu'on demandait, c'était que si on les libère ou si on ne veut pas les libérer, qu'on nous prenne aussi, nous qui étions venus là, parce que nous étions censés être complices avec eux, qui trouvaient de mal à les reprocher. Tous ceux qui nous connaissent savent bien comment est-ce que nous manifestons, nous faisons dans toute la légalité.
Et déjà, il y a plusieurs militants qui se sont rendus aux forces de police.
Exactement. Nous sommes venus ensemble là parce que tout ce qu'ils reprochent à ses amis, qu'ils ont arrêté, nous tous ensemble, nous sommes d'accord avec. Et d'arrêter 4 parmi nous et de nous laisser à l'extérieur alors qu'ensemble, nous avons organisé ça. Donc, nous étions venus pour qu'ils nous arrêtent de même. Mais ils nous ont demandé de quitter. Nous sommes entrés dans la clôture, dans la dite enclos où il y a le cachot. Mais ils nous ont demandé de quitter parce qu'ils voulaient transférer le dossier à des autorités compétentes selon eux. Mais nous continuons toujours à faire pression.
Duvin Kombi, activiste du mouvement citoyen Lucha en République démocratique du Congo, joint par Claire Morin-Gibourg. Et selon l'agence Reuters, les autorités kenyanes ont suspendu les permis d'exploitation de 13 sociétés somaliennes de transfert de fonds installées au Kenya. Elles étaient accusées d'être complices des faits de terrorisme.
Cette décision est intervenue après l'attentat commis contre le campus de l'université de Garissa qui a coûté la vie à 148 personnes la semaine passée. Par ailleurs, le journal kényan Daily Nation précise que le gouvernement de Nairobi a gelé les comptes bancaires appartenant à 86 particuliers et entreprises soupçonnées de financer le terrorisme dans le pays. Néanmoins, le gouverneur de la Banque centrale somalienne, Bachir Issa Ali, a expliqué que ces mesures risquent d'avoir un effet dévastateur sur la communauté somalienne du Kenya qui compte un peu plus d'un million de membres. En effet, de nombreux Somaliens résidant au Kenya dépendent de l'aide de leurs proches.
Côte d'Ivoire, un affrontement est survenu au palais de justice d'Abidjan entre des policiers et des femmes membres du Front populaire ivoirien, le parti politique de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les raisons de cet affrontement divergent. D'après les femmes du FPI, les policiers se sont opposés à leur arrivée au palais de justice pour soutenir Odette Lourougnon et ses co-détenus à leur procès. Mais pour la police, les femmes du FPI ont fait le désordre en se couchant au sol dans le hall du palais. Les policiers disent leur avoir demandé d'évacuer le palais, ce qu'elles se sont opposés à faire, d'où l'affrontement à Abidjan. Il est 12h, il est 16h05.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et actualité américaine, l'administration Obama, qui se prépare à des mois d'âpres négociations internationales avec l'Iran, doit parallèlement se battre pour éviter que le Congrès, par ses actions, ne compromette les efforts diplomatiques des puissances mondiales dans le dossier nucléaire iranien. Un nombre croissant de parlementaires américains, républicains aussi bien que démocrates, estiment que le Congrès devrait voter surtout accord final avec Téhéran sur le nucléaire iranien. Le point avec Lionel Gaïma.
Pour le sénateur républicain Bob Corker, président de la Commission des affaires étrangères, un accord nucléaire avec l'Iran est trop important pour que le Congrès garde le silence. Le sénateur Corker veut geler les sanctions contre l'Iran pendant 60 jours pour donner aux parlementaires le temps d'approuver ou de rejeter un accord final. La Maison-Blanche a menacé d'user son veto, mais certains démocrates se joignent aux républicains pour appeler à un vote sur tout accord avec l'Iran. Parmi eux, Charles Schumer de New York, qui devrait être le prochain leader des démocrates à la Chambre haute. Si assez de démocrates appuient M. Schumer, le Congrès pourrait avoir la majorité de 2/3 requise pour passer outre à un veto présidentiel et bloquer la levée des sanctions demandées par Téhéran.
Côté israélien, le premier ministre Benjamin Netanyahou a poursuivi hier son offensive contre l'accord cadre conclu entre Téhéran et les grandes puissances sur le dossier nucléaire, déplorant qu'ils ne comprennent pas l'arsenal de missiles à longue portée de l'Iran. Il a en outre estimé que les bénéfices économiques dont tirerait parti Téhéran après une levée des sanctions serviraient à financer les groupes radicaux soutenus par l'Iran au Moyen-Orient. Au 14e jour de l'intervention militaire saoudienne au Yémen, Washington accélère les livraison d'armes à ses alliés du Golfe. De son côté, Téhéran vient d'envoyer deux de ses vaisseaux de guerre dans les eaux du Yémen. La population civile est piégée. Les aides humanitaires ont du mal à être acheminées. Le comité international de la Croix-Rouge a lancé un appel à une trêve humanitaire de 24 heures pour pouvoir apporter un soutien médical à la population. 32 personnes ont été tuées par une double attaque à la voiture piégée imputée au groupe État islamique dans les zones sous contrôle rebelle au nord d'Alep. Les deux, c'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les deux attaques ont eu lieu mardi soir dans des localités de la province septentrionale d'Alep, contrôlée par la branche syrienne d'Al-Qaïda, le front Al-Nusra. Al-Nusra et d'autres forces rebelles hostiles à l'État islamique qui contrôle des pans des territoires syriens et irakiens. L'État islamique veut ouvrir un nouveau front et cherche à s'étendre dans la province d'Alep où le groupe djihadiste contrôle déjà quelques localité, a déclaré à l'AFP aujourd'hui le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahman. Le sport à présent, le Gabon accueillera l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2017. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui au Caire le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Le Gabon l'a emporté face à deux autres pays candidats. Il s'agit de l'Algérie et le Ghana pour organiser cette 31e édition de la CAN qui devait initialement se disputer en Libye avant que ce pays en proie à une guerre civile ne se désiste. Et puis on connaît donc, ce sont 13 groupes de qualification qui vont se disputer cette 31e édition. Au total, 52 pays vont disputer les éliminatoires, alors que se dégagent par ailleurs déjà le groupe GM dans lequel 4 traditionnelles grandes nations du continent se retrouvent. La première journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique du Gabon va débuter les 12, 13 et 14 juin prochains et la 6e et dernière journée aura lieu les 2, 3 et 4 septembre 2016. Merci. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est dans moins d'une heure. Jean-Roger Bien à ce microphone. Merci. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info.